Ivan Tourguenieff, un premier amour. Les convives s'étaient séparés depuis longtemps. La pendule sonna minuit et demi. Il ne restait plus dans la chambre que le maître de la maison, Sergueï Nikolaïevitch, et Vladimir Pietrovitch. Le maître de la maison sonna et donna l'ordre d'emporter les restes du souper. Ainsi, nous dit-il en s'enfonçant dans son fauteuil et en allumant un cigare, c'est convenu. Chacun de vous va raconter l'histoire de son premier amour. Sergueï Nikolaïevitch, à vous de commencer. Sergueï Nikolaïevitch, petit homme replet à la figure fadasse et bouffie, regarda d'abord le maître de la maison et leva ensuite les yeux au plafond. « Oh, je n'ai pas eu de premier amour, » dit-il enfin. « J'ai commencé immédiatement par mon second. »« Comment cela ?»« C'est fort simple. J'avais 18 ans lorsque je me mis à courtiser une petite personne fort gentille, mais je le faisais pour ainsi dire comme une chose d'habitude et comme je le fis ensuite assez souvent. » C'est à l'âge de 6 ans environ que je devins réellement épris pour la première et la dernière fois. Et la femme qui m'inspira cette passion était ma bonne. Mais il y a longtemps de cela. Les détails de cet amour se sont effacés de ma mémoire, et d'ailleurs, si je me les rappelais, qui pourrait-il intéresser? Ah, alors comment faire? Reprit le maître de la maison. Mon premier amour n'offre guère de particularités intéressantes non plus. Je n'ai point aimé avant d'avoir connu Anna Ivanovna, ma femme, et tout marcha fort couramment. Mon père et le sien décidèrent de nous marier. Nous nous attachâmes promptement l'un à l'autre et notre mariage ne se fit pas attendre. C'est une histoire qui peut se conter en quelques mots. Je vous avoue, messieurs, qu'en soulevant la question des premières amours, je comptais sur vous autres, célibataires, qui, sans être vieux, n'êtes plus pourtant des jeunes gens. Mais vous, Vladimir Pietrovitch, n'avez-vous rien d'intéressant à nous conter? Mon premier amour présente, il est vrai, quelques circonstances assez particulières, répondit en hésitant un peu Vladimir Pietrovitch, homme d'une 40aine d'années, aux cheveux noirs mais déjà grisonnants. Ah, dirent en même temps le maître de la maison et Sergueï Nikolaïevitch, tant mieux, racontez-nous cela. Volontiers. Mais non, je ne vous le conterai pas, car je m'en tirerai trop mal. Mes récits sont ou trop parides, et trop courts, ou trop longs et peu fidèles. Mais, si vous voulez bien me le permettre, je mettrai par écrit tous les détails dont je pourrais me souvenir et je vous les lirai. Les deux amis s'y refusèrent d'abord, mais Vladimir Pietrovitch n'en voulut point démordre. 2 semaines après, ils se réunirent de nouveau, et Vladimir Pietrovitch remplit sa promesse. Voici ce que contenait son cahier. J'avais alors 16 ans. C'était en 1833, pendant l'été. Je demeurais à Moscou, chez mes parents. Ils avaient loué une maison de campagne à la barrière de Kalouga, en face de Niesoufloy. Je me préparais pour l'université, mais je travaillais à mes heures et sans me presser. Personne ne songeait à restreindre la liberté dont je jouissais. Je faisais tout ce que je voulais, surtout depuis le départ de mon dernier gouverneur français, qui ne pouvait s'accoutumer à l'idée qu'il était tombé comme une bombe en Russie et passait des journées entières sur son lit, la figure courroucée. Mon père me traitait avec une indifférence amicale. Ma mère s'occupait fort peu de moi, quoique je fusse son seul enfant. D'autres soins l'absorbaient. Mon père, qui était encore jeune et très beau de sa personne, l'avait épousée par calcul. Elle était plus âgée que lui d'une 10aine d'années. Ma mère menait une assez triste existence. Elle s'inquiétait de tout, se livrait à des accès de jalousie, s'emportait, mais jamais en présence de mon père. Elle le craignait beaucoup, et lui, toujours froid et réservé, il la tenait à distance. Je n'ai jamais vu un homme d'un calme plus recherché, plus confiant en lui-même et plus absolu. Je me rappelle encore toutes les circonstances des premières semaines que je passais à la campagne. Le temps était magnifique. Nous quittâmes la ville le 9 mai, le jour même de la Saint-Nicolas. Je me promenais tantôt dans le jardin de notre maison, tantôt dans le parc de Neskouchnoï, tantôt dans les environs de la barrière. Je prenais avec moi n'importe quel livre, le cours d'histoire de Kaïdanov, par exemple, mais je l'ouvrais rarement et préférais réciter à haute voix des vers dont j'avais la mémoire bien garnie. Mon sang bouillait dans mes veines et mon cœur était agité par un sentiment d'allégresse confiante, mêlé à je ne sais quelle secrète émotion. J'attendais toujours quelque chose avec une sorte d'anxiété, et tout m'étonnait et j'étais prêt à tout. Mon imagination s'enflammait. Une foule de fantaisies tournait rapidement et constamment autour des mêmes images, comme les hirondelles qui, à l'aurore, décrivent de longs cercles autour d'un clocher. Puis je redevenais pensif, je m'attristais et il m'arrivait même de pleurer. Mais à travers cette tristesse et ces larmes qui étaient provoquées, soit par l'harmonie des vers, soit par la beauté du soir, perçait toujours, comme l'herbe au printemps, le joyeux sentiment de la première jeunesse. J'avais un cheval de selle, je le sellais moi-même et m'en allais seul le plus loin possible. Puis je partais au grand galop et me figurais que j'étais un chevalier courant dans un tournoi. Comme le bruit du vent dans les oreilles me paraissait mystérieux et charmant. Ou bien, les yeux levés au ciel, j'ouvrais mon âme à sa lumière éclatante, azurée, et il me semblait qu'elle pénétrait jusqu'au fond de mon cœur. Je me souviens qu'alors l'image d'une femme, les traits d'une femme aimée, n'apparaissaient jamais à mon esprit que confusément. Mais dans toutes mes pensées, dans toutes les sensations que j'éprouvais, se mêlait presque à mon insu le pudique pressentiment de quelque chose de nouveau, de ravissant, de féminin. Ce pressentiment s'emparait de tout mon être. Il se révélait dans mon regard, il coulait dans mes veines, embrasait tout mon sang. Et il devait bientôt se réaliser. Notre maison se composait d'un corps de logis principal construit en bois, avec un péristyle et deux petites ailes, et dans celle de gauche se trouvait une fabrique de papier de teinture bon marché. J'y allais souvent pour voir une dizaine d'enfants maigres et malpropres, aux traits fatigués, en tuniques couvertes de taches, se jeter à tout instant sur les leviers de bois qui servaient à comprimer les billots quadrangulaires des presses, et par le poids réuni de leurs petits corps, imprimer les ornements grossiers qui figuraient sur les bandes de papier. L'aile droite était vide, elle était allouée. Un jour, ou trois semaines environ après le 9 mai, les volets de ce petit logement s'ouvrirent et des figures de femmes parurent aux fenêtres. Une famille s'y était établie. Je me souviens que le même jour, pendant le dîner, ma mère demanda au maître d'hôtel des renseignements sur les nouveaux arrivés. Ayant entendu prononcer le nom de la princesse Zathekin, elle dit aussitôt, non sans une sorte de considération, « Oh, une princesse !» Puis elle ajouta, « Oh, cela doit être quelqu'un de pauvre. » « Ils sont venus dans trois voitures de place, » répondit respectueusement le maître d'hôtel en servant un plat. « Ils n'ont pas d'équipage à eux, et leur mobilier ne vaut pas grand-chose. »« Oui, mais cela vaut toujours mieux que... » Mon père lui jeta un de ses froids regards, et elle se tut. Il est certain que la princesse Zathekin ne pouvait pas être riche. La maison qu'elle venait de louer était si petite et si délabrée que des gens un peu à leur aise n'auraient point consenti à s'y loger. Au reste, je ne prêtais alors aucune attention aux paroles de ma mère. Le titre de princesse ne fit aucune impression sur moi. J'avais lu peu de temps auparavant les Brigands de Schiller. J'avais pris l'habitude de rôder chaque soir avec un fusil dans notre jardin et de surveiller les corbeaux. Je ne pouvais souffrir ces oiseaux prudents, avides et rusés. Le jour en question, je descendis comme d'ordinaire dans le jardin et parcourus vainement les allées. Les corbeaux m'avaient aperçu et se contentaient de jeter de loin de sourds croassements. Je m'approchai par hasard de la clôture basse qui séparait nos propres domaines de l'étroite bande de jardin qui s'étendait derrière l'aile de droite et en dépendait. Je marchais, la tête baissée. Tout à coup, j'entendis des voix. Je regardais par-dessus la clôture et restais pétrifié. Un spectacle étrange m'était apparu. À quelques pas de moi, dans une petite éclaircie, au milieu de framboisiers verdoyants, se tenait une jeune fille, grande et bien faite, en robe rose rayée et un mouchoir blanc sur la tête. Autour d'elle se pressaient quatre jeunes gens, et elle les frappait tour à tour au front avec ses petites fleurs grisâtres, dont je ne sais pas le nom, mais que seuls tous les enfants connaissent. Ces fleurs forment de petits sacs qui éclatent avec bruit lorsqu'on les frappe contre quelque chose de résistant. Les jeunes gens mettaient tant d'empressement à présenter leur front, et il y avait dans tous les mouvements de la jeune fille, je ne pouvais la voir que de côté, quelque chose de si impérieux et en même temps de si aimable, de si moqueur et de si doux, que je faillis jeter un cri de surprise et de plaisir. J'aurais donné, ce me semble, tout au monde pour recevoir aussi un seul petit coup de ses doigts si mignons. Mon fusil glissa sur l'herbe, je n'y fis plus attention. Je dévorai des yeux cette taille svelte et ce cou charmant et ses belles mains et ses cheveux blonds un peu défaits par le frottement du mouchoir blanc. Et cet œil à demi fermé mais si intelligent et ses paupières et cette joue délicate. « Jeune homme, hé, jeune homme !» dit tout à coup quelqu'un auprès de moi. « Est-il permis de regarder comme cela les demoiselles qui ne sont pas de la maison ?» Je tressaillis et restai muet. Derrière la clôture et tout près de moi se tenait un homme inconnu, aux cheveux noirs coupés très courts, qui me considérait d'un regard ironique. Au même instant, la jeune fille se tourna de mon côté. J'aperçus de grands yeux gris, une physionomie animée, et toute cette figure prit subitement une expression de gaieté. Elle laissa voir une rangée de dents blanches, ses sourcils se soulevèrent d'une façon plaisante. Je rougis, ramassai mon fusil, et poursuivi par un rire sonore, je m'enfuis dans ma chambre, me jetai sur mon lit et me couvris les yeux avec les mains. Mon cœur bondissait, je me sentais à la fois tout confus et tout joyeux. J'étais en proie à une émotion que je n'avais encore jamais éprouvée. Après quelques moments de repos, je réparai le désordre de mon costume et descendis pour prendre le thé. L'image de la jeune fille planait devant moi. Les battements de mon cœur s'apaisèrent, mais j'y ressentais une sorte d'oppression qui me charmait. « Qu'as-tu ? » me demanda inopinément mon père. « As-tu tué un corbeau ?» Je me disposais à lui conter mon aventure, mais je me retins et me bornais à sourire en secret. Lorsque je fus remonté, je me mis soudain, et sans me rendre compte du motif qui m'y poussait, à tourner deux ou trois fois sur moi-même, après quoi je me couchai et dormis toute la nuit comme un mort. Un peu avant le jour, je m'éveillai pendant quelques instants. Je levai la tête, regardai autour de moi avec une émotion délicieuse et me rendormis de nouveau. Comment pourrais-je faire sa connaissance ? Fut ma première pensée aussitôt que le jour me réveillait. Je me rendis dans le jardin avant le thé, mais ne m'approchai pas trop de la clôture et ne vis personne. Après le thé, je passai à plusieurs reprises dans la rue, devant la maison, et lorgnai de loin les fenêtres. Je crus distinguer ses traits derrière les rideaux, et saisi de peur, je m'éloignai précipitamment. Cependant, il faut absolument que je fasse sa connaissance, pensais-je tout en marchant çà et là dans la plaine sablonneuse qui s'étend devant Neskouchnoï. Mais comment m'y prendre? Voilà la question. Je me rappelais les moindres particularités de la scène de la veille. Je me souvenais surtout du rire dont elle m'avait poursuivi. Mais tandis que je me tourmentais et que je bâtissais dans ma tête toutes sortes de projets, le sort était venu à mon secours. Pendant mon absence, ma mère avait reçu de sa nouvelle voisine une lettre écrite sur un papier grossier et portant un cachet de cire brune tel qu'on en voit seulement sur les envois faits par la poste et sur les bouchons de vin à bon marché. Dans cette lettre, dont l'écriture était presque illisible et l'orthographe fort défectueuse, la princesse demandait protection à ma mère, qui, au dire de la solliciteuse, connaissait intimement des personnages haut placés dont dépendait son sort et celui de ses enfants, car elle avait plusieurs procès fort importants. « Je m'adresse, ADRAI2SE, à vous, écrivait-elle, comme une femme bien née à une autre femme bien née, et il m'est agréable en outre de profiter de cette occasion. » En terminant, la princesse demandait à ma mère la permission de se présenter chez elle. Je trouvais ma mère dans une assez mauvaise disposition d'esprit. Mon père n'était pas à la maison, et elle ne savait qui consulter. Laisser sans réponse la lettre d'une femme bien née, et qui plus est princesse, était chose impossible, mais que fallait-il lui répondre ? C'est ce qui mettait ma mère dans le plus grand embarras. Il lui semblait peu convenable d'écrire à la princesse un billet en français. Et d'un autre côté, elle n'était pas non plus bien ferme sur l'orthographe russe. Elle le savait, elle ne voulait pas se compromettre. Mon retour la remplit de joie. Elle me recommanda d'aller immédiatement trouver la princesse pour lui dire que ma mère était toute disposée à rendre service à son excellence, autant que cela dépendait d'elle et qu'elle l'invitait à venir la voir le jour même vers 1 heure. L'accomplissement aussi prompt qu'inattendu de mon désir secret me réjouit et m'effraya tout à la fois. Mais je parvins à contenir mon trouble et me rendis d'abord dans ma chambre pour mettre une jolie cravate neuve et une redingote. Je portais encore habituellement à la maison une veste et un col rabattu, quoique cela commençât à me déplaire singulièrement. Ce n'est pas sans émotion que j'entrais dans l'antichambre étroite et malpropre de la maison qu'habitait notre voisine. J'y trouvais un vieux domestique grisonnant, au teint sombre et cuivré, aux petits yeux maussades, et dont le front et les joues étaient sillonnés de rides profondes qui semblaient tracées au couteau. Il portait une assiette sur laquelle j'aperçus un débris de hareng sort, et ayant poussé du pied la porte qui conduisait à la chambre voisine, il me dit d'un ton saccadé « Que voulez-vous ? » « La princesse Zasekine est-elle à la maison ?» lui demandai-je. « Bonifaci ! » cria quelqu'un derrière la porte d'une voix chevrotante. Le domestique se tourna silencieusement du côté de la chambre voisine et me montra le dos usé jusqu'à la corde de sa livrée, cornet par derrière, un seul bouton armorié et tout jauni par le temps. Puis il sortit après avoir déposé l'assiette sur le plancher. « Es-tu allé au quartier ?» répéta la même voix. Le domestique marmotta, je ne sais quoi. « Ah, quelqu'un est là. Le petit seigneur d'à côté m'a pris le d'entrée. »« Veuillez passer dans le salon, » me dit le domestique, en reparaissant devant moi et en relevant l'assiette. J'entrai dans le salon. Je me trouvai dans une chambre peu spacieuse et assez sale, garni de meubles en mauvais état et qui semblait avoir été placé là à la hâte. Près de la fenêtre, sur un fauteuil auquel il manquait un bras, était assise une femme d'une 50aine d'années, laide et la tête nue. portant une robe verte passée et un fichu de laine bigarré noué autour du cou. Ses petits yeux noirs s'arrêtèrent sur moi avec curiosité. Je m'approchai d'elle et la saluai. « C'est à la princesse Zasekin que j'ai l'honneur de parler. »«
Oui, je suis la princesse Zasekin, et vous êtes fils de Monsieur V. »«
Oui, et je viens vous trouver de la part de ma mère. » »«
Prenez place, je vous prie. Bonifaci, où sont mes clés? Les as-tu vues ?»
Je transmis à Madame Zasekin la réponse de ma mère. Elle m'écouta en frappant de ses gros doigts rouges sur le châssis de la fenêtre, et lorsque j'eus fini, elle me regarda de nouveau fixement.
« C'est fort bien, j'irai très certainement, » dit-elle enfin. « Mais comme vous êtes encore jeune, quel âge avez-vous ?»«
16 ans, » lui dis-je en balbutiant un peu. La princesse tira de sa poche je ne sais quelle paperasse, et les ayant approchés de son nez, elle se mit à les déchiffrer.
« Oh, c'est un bel âge, » dit-elle tout à coup en se remuant sur sa chaise. « Mais ne faites pas de cérémonie, je vous en prie. Oh, chez moi, on ne se gêne point.
»« Pas assez peut-être, » pensais-je, en jetant avec un dégoût involontaire les yeux sur sa figure déplaisante. En ce moment, l'autre porte du salon s'ouvrit, et je vis paraître la jeune fille que j'avais aperçue dans le jardin. Elle leva la main et un sourire effleura ses lèvres.
« Et voilà ma fille !» dit la princesse en me la montant du coude. « Zinochka, c'est le fils de notre voisin, M.V. Permettez-moi de vous demander votre nom. »«
Vladimir, » lui répondis-je en me levant.
« Et le nom patronymique ?»«
Pietrovitch. »
« Ah oui, j'ai connu un maître de police qui se nommait aussi Vladimir Pietrovitch. Bonifaci, ne cherche pas les clés, elles sont dans ma poche. »
La jeune fille continuait à me regarder en clignant légèrement les yeux, la tête un peu inclinée.
« J'ai déjà vu Monsieur Voldemar, » dit-elle.
Au son argentin de sa voix, un léger frisson me parcourut de la tête aux pieds.
« Vous me permettez de vous nommer ainsi ?»«
Comment donc ?» balbutiai-je.
« Où cela ?» demanda la princesse.
La jeune fille ne répondit pas à sa mère.
« Vous êtes occupée maintenant ?» reprit-elle sans me quitter des yeux.
« Mais non.
Voulez-vous m'aider à débrouiller un écheveau de laine ? Les venez par ici, chez moi. »
Elle me fit un signe de tête et sortit du salon. Je la suivis. Les meubles qui garnissaient la chambre où j'entrais sur ses pas étaient un peu moins usés et rangés avec plus de goût. Au reste, je ne pus presque rien observer en ce moment. J'agissais comme en songe et me sentais dans un état de bien-être tellement profond qu'il touchait à la stupeur. La jeune princesse s'assit, prit un écheveau de laine rouge et, me montant une chaise en face d'elle, dénoua délicatement l'écheveau et l'étendit sur mes mains. Elle faisait tous ses préparatifs en silence, avec une lenteur comique et ce même sourire malin que j'avais déjà remarqué sur ses lèvres. Elle se mit à enrouler la laine autour d'une carte pliée en deux et me jeta tout à coup un regard si vif et si lucide que je baissais involontairement la tête. Lorsque ses yeux, ordinairement à demi fermés, s'ouvraient de toute leur grandeur, sa physionomie changeait complètement. Elle semblait subitement inondée de lumière. « Qu'avez-vous pensé de moi, hier, Monsieur Voldemar ?» me demanda-t-elle au bout de quelques instants. « Oh, je suis sûr que vous m'avez mal jugé. » « Oh, non, princesse, je n'ai rien pensé, comment pourrais-je ?» lui répondis-je avec confusion.
« Écoutez, » reprit-elle, « vous ne me connaissez pas encore. Je suis fort étrange, je veux que l'on me dise toujours la vérité. Vous avez 16 ans, à ce que je viens d'apprendre, et moi j'en ai 21. Vous voyez que je suis beaucoup plus âgé que vous. C'est pourquoi vous devez me dire toujours la vérité. Et m'obéir, ajouta-t-elle. Mais regardez-moi, pourquoi ne me regardez-vous pas? Je me troublais encore plus. Pourtant, je levais les yeux et la regardais. Elle sourit, mais d'un autre sourire, d'un sourire d'approbation. Regardez-moi, reprit-elle en baissant la voix et d'un ton caressant. Cela ne m'est pas désagréable. Votre figure me plaît. Je suis sûr que nous serons amis. Et moi, est-ce que je vous plais? Ajouta-t-elle avec malice. Princesse, commençai-je, il est de fait. Oh, avant tout, je vous prie de m'appeler Zinaïda Alexandrovna. Et en second lieu, quelle est donc cette habitude qu'ont les enfants, elle se reprit, les jeunes gens, de ne pas dire franchement ce qu'ils éprouvent? Cela est bon pour les grandes personnes. Moi, je suis sûr que je vous plais. Quoique cette franchise me fût très agréable, je me sentis un peu blessé. Je voulus lui montrer qu'elle n'avait pas affaire à un enfant, et prenant un ton sérieux et dégagé autant que possible, je lui répondis « Vous me plaisez beaucoup, assurément, Zinaïda Alexandrovna. Je ne veux pas le cacher. » Elle hocha la tête à plusieurs reprises. « Vous avez un gouverneur ?» me demanda-t-elle subitement. « Oh non, il y a longtemps que je n'ai plus de gouverneur. » Je mentais, il n'y avait pas un mois que j'avais fait mes adieux à mon français. « Ah, vraiment ? Je vois bien que vous êtes tout à fait grand. Tenez les mains droites, me dit-elle en me frappant légèrement les doigts. » Et elle se mit à dévider attentivement les chevaux. Je profitais de ce qu'elle ne levait pas les yeux pour l'examiner d'abord à la dérobée, puis avec plus d'assurance. Sa figure me parut encore plus ravissante que la veille. Tous ses traits étaient empreints d'intelligence, de finesse et de grâce. Elle tournait le dos à la fenêtre qui était fermée par un store blanc. Un rayon de soleil traversait le store et inondait d'une lumière pâle les cheveux touffus et dorés de Zinaïda, son cou innocent, ses épaules fuyantes, sa poitrine calme et délicate. Je la regardais, comme elle me devenait chère. Il me semblait que je la connaissais depuis longtemps, que je n'avais rien connu, que je n'avais pas vécu avant de la connaître. Elle portait une robe foncée, un peu usée et un tablier. Oh, je crois que j'aurais volontiers embrassé chaque pli de cette robe et de ce tablier. Le bout de ses bottines sortait de dessous sa robe. Je me serais volontiers prosterné devant ses bottines. Me voilà donc assis en face d'elle, pensais-je. J'ai fait sa connaissance, quel bonheur, mon Dieu! Je faillis sauter de ma chaise tant je me trouvais heureux, mais je me contentais de remuer un peu les pieds, comme font les enfants qui croquent un bonbon. Je me sentais à l'aise comme un poisson dans l'eau, et j'aurais passé ma vie entière dans cette chambre sans bouger de place. Ses paupières se relevèrent doucement, et de nouveau je vis briller devant moi ses yeux limpides, et de nouveau elle se mit à sourire. « Comme vous me regardez !» dit-elle avec lenteur, et elle me menaça du doigt. Je rougis. « Elle comprend tout, elle voit tout, » me dis-je aussitôt. « Mais comment pourrait-il en être autrement ?» Un bruit se fit entendre tout à coup dans la chambre voisine, le bruit d'un sabre. « Zina !» cria la princesse. « Bielovtsorov, t'apporte un petit chat !»« Un petit chat !» s'écria Zinaïda, et se levant précipitamment, elle me jeta la pelote sur les genoux et s'enfuit. Je me levai aussi, ayant posé les chevaux et la pelote sur la fenêtre. Je passai dans le salon et restai interdit. Au milieu de la chambre était étendu, les pattes écartées, un petit chat au poil tacheté. Zinaïda se tenait à jouer devant lui et relevait délicatement son petit museau. À côté de la princesse et remplissant presque tout l'intervalle qui séparait les deux fenêtres, se dessinait un housard blond et frisé, à la figure enluminée et aux yeux saillants. « Est-il drôle ?» dit Zinaïda. « Et ses yeux ne sont pas gris, mais verts. Et quelles grandes oreilles ! Oh, merci, Victor Igorich ! Vous êtes bien aimable !» Le housard, dans lequel je reconnus un des jeunes gens que j'avais vu la veille, sourit et salua en faisant sonner ses éperons et les anneaux de son sabre. « Vous avez exprimé hier le désir d'avoir un petit chat acheté, et avec de grandes oreilles, je vous en ai trouvé un. Hein ? Votre parole est ma loi. » Et il salua de rechef. Le petit chat poussa un léger miaulement et se mit à flairer le plancher. « Il a faim !» s'écria Zinaïda. « Bonifaci, Sophie, apportez du lait !» Une femme de chambre, pauvrement vêtue, entra portant une soucoupe de lait qu'elle plaça devant le petit chat. Celui-ci tressaillit, ferma les yeux et se mit à boire. « Quel petit joli rang gros il a !» remarqua Zinaïda, en baissant la tête presque jusqu'au plancher, pour examiner de côté le museau du petit chat. Ayant assez bu, celui-ci se mit à filer en agitant les pattes avec une grâce affectée. Zinaïda se releva et s'étant tournée vers la femme de chambre, elle lui dit d'un air insouciant « Emporte-le ! Le petit chat vaut bien la permission de baiser la petite main !» dit le housard en redressant son robuste torse, étroitement serré dans un uniforme neuf. « Les deux mains !» répondit Zinaïda et elle les lui tendit. Pendant qu'il les baisait, elle tourna la tête et me regarda. Je me tenais immobile et ne savais si je devais rire ou dire quelque chose. Mais j'aperçus tout à coup, par la porte entrouverte, la figure de notre laquais Fédor. Il me faisait des signes. J'allais le trouver machinalement. « Que veux-tu ? » lui demandai-je. « Votre maman m'a envoyé vers vous, » me dit-il à voix basse. « Elle est mécontente de ce que vous ne lui apportiez pas une réponse. Mais suis-je donc ici depuis longtemps ? Il y a plus d'une heure. »« Plus d'une heure ? » répétai-je involontairement. Et rentrant dans le salon, je me mis à saluer en frottant mes pieds sur le plancher, comme l'exige la politesse. « Où allez-vous ? » me dit la jeune princesse en avançant la tête. Le housard la cachait à moitié. Ben, « Il faut que je rentre. Je dirais donc, ajoutai-je en m'adressant à sa mère, que vous vous proposez de venir nous voir vers une heure. Comptez sur moi, mon cher garçon. » La princesse tira précipitamment sa tabatière et aspira une prise avec tant de force que je fis un mouvement de surprise. « Comptez sur moi !» répéta-t-elle en clignant ses yeux larmoyants et en toussant. Je saluai une seconde fois, me retournai et sortis de la chambre avec le sentiment de malaise dans le dos qu'éprouve un jeune homme lorsqu'il sait qu'on le suit les yeux. « Faites-y bien attention, monsieur Voldemar. Venez nous voir !» cria Zinaïda, et elle se mit à rire. « Mais pourquoi rit-elle toujours ?» pensai-je en revenant à la maison, accompagné de Fédor qui ne me disait rien, mais qui me suivait d'un air peu satisfait. Ma mère me gronda. Elle ne pouvait comprendre ce qui m'avait retenu si longtemps chez cette princesse. Je ne lui répondis rien et rentrai dans ma chambre. Je me sentis tout à coup pris de tristesse. J'avais beaucoup de peine à retenir mes larmes. J'étais jaloux du housard. La princesse se rendit chez ma mère, suivant sa promesse. Elle lui déplut. Je n'assistai pas à leur entrevue, mais pendant le dîner, ma mère dit à mon père « que cette princesse Azekine lui paraissait à une femme très vulgaire, qu'elle l'avait fort ennuyée en la sollicitant d'intercéder pour elle auprès du prince Serge, qu'elle avait je ne sais quelles vilaines affaires d'argent, et devait être une femme à chicane. Ma mère ajouta qu'elle l'avait cependant invitée à dîner pour le lendemain avec sa fille. En entendant ce dernier mot, je plongeais le nez dans mon assiette, parce que, après tout, elle était sa voisine et titrée. Mon père lui répondit à ce propos qu'il se rappelait maintenant cette chère dame. Il avait connu dans sa jeunesse le prince Azekine. C'était un homme fort bien élevé, mais sans aucun esprit de conduite. On l'avait surnommé dans le monde le Parisien, parce qu'il avait longtemps habité Paris. Possesseur d'une fortune considérable, il l'avait perdue au jeu. Bientôt après, on n'avait jamais trop su pourquoi. Peut-être bien était-ce pour établir sa fortune. Et il aurait pu, par parenthèse, ajouta mon père avec un sourire dédaigneux, faire un meilleur choix. Il avait épousé la fille d'un employé, puis il s'était lancé dans des spéculations qui avaient achevé sa ruine. « Pourvu qu'elle ne me demande pas de lui prêter de l'argent, » reprit ma mère. « Oh, c'est fort possible, » dit paisiblement mon père. « Parle-t-elle français ?»« Très mal. »« Oh, mon reste, peu importe. »« Ne m'as-tu pas dit que tu avais aussi invité sa fille ?»« Je ne sais de qui je tiens, qu'elle est fort gentille et très instruite. »« Ah, alors elle ne ressemble donc pas à sa mère ?» « Ni au prince, » ajouta mon père. « Avec toutes sortes d'instructions, il était très bête. » Ma mère soupira et devint pensive. Mon père se tut. Je me sentis fort embarrassé durant toute cette conversation. Après le dîner, je me rendis dans le jardin, mais sans fusil. Je m'étais bien promis de ne pas approcher du jardin des Azekines. Mais une force invincible m'y poussa, et je n'eus pas lieu de m'en repentir. À peine étais-je arrivé à la clôture, que j'aperçus Zinaïda. Cette fois, elle était seule. Elle tenait à la main un livre et marchait lentement dans une allée. Elle ne me remarqua point. J'allais la laisser s'éloigner, mais prenant tout à coup du courage, je me mis à tousser. Elle se retourna, sans s'arrêter toutefois, rejeta de la main le large ruban bleu qui retenait son chapeau de paille rond, me regarda avec un distrait sourire et reprit sa lecture. J'ôtai ma casquette, et après un moment d'hésitation, je m'éloignai, le cœur gros. « Que suis-je pour elle ?» me dis-je, et cela en français. Je ne sais trop pourquoi. Un pas que je connaissais se fit entendre derrière moi. Je me retournai et vis mon père qui s'avançait de mon côté en marchant rapidement et avec légèreté, suivant son habitude. « Est-ce la jeune princesse ?» me demanda-t-il. « Oui. Tu la connais donc ?»« Bon, je l'ai vue ce matin chez sa mère. » Mon père s'arrêta. Puis il tourna brusquement sur ses talons et revint sur ses pas. Étant arrivé près de l'endroit où se trouvait alors Zinaïda, il la salua poliment. Elle lui rendit son salut. Une expression de surprise se peignit sur ses traits et elle abaissa son livre. Je remarquai aussi qu'elle suivit mon père des yeux. Mon père avait toujours une mise élégante, quoique simple et de bon goût, mais jamais sa taille ne me parut mieux prise, jamais son chapeau gris n'avait été posé avec plus de goût sur sa chevelure encore presque aussi abondante que dans sa jeunesse. Je m'étais dirigé de nouveau du côté de Zinaïda, mais elle ne me regarda même point, releva son livre et s'éloigna. Pendant toute la soirée et le lendemain matin, je restais plongé dans un muet abattement. Je me souviens que j'essayais de travailler et que je pris Kaïdanov. mais les alinéas et les pages du célèbre historien passaient vainement sous mes yeux. Je lus plus de 10 fois ces mots. Jules César se distinguait par la hardiesse de ses entreprises militaires. Oh, je n'y compris rien et je jetai le livre. Avant le dîner, je me pommadai de nouveau les cheveux et mis de nouveau ma redingote et ma cravate. « Et pourquoi cela ?» me demanda ma mère. « Tu n'es pas encore étudiant, et Dieu sait si tu pourras passer des examens d'admission. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps qu'on t'a fait une veste. Il faut pourtant pas la perdre. » « Il viendra du monde, » balbutiai-je, presque avec désespoir. Oh, « Quelle folie! Tu appelles cela du monde ?» Il fallut bien se soumettre. Je remplaçai ma redingote par une veste, mais je gardai la cravate. La princesse et sa fille arrivèrent une demi-heure avant le dîner. La vieille avait jeté sur la robe verte que je lui connaissais un châle jaune, et elle s'était coiffée d'un bonnet à l'ancienne mode, orné de rubans couleur de feu. Elle ne tarda pas à parler de ses lettres de change en soupirant et en se plaignant de sa pauvreté. Elle était obséquieuse, mais ne se gênait nullement, aspirait avec bruit ses prises de tabac et se remet toujours sur sa chaise. Du reste, il était visible qu'elle ne s'embarrassait guère de son titre. Quant à Zinaïda, elle avait au contraire une tenue fort convenable, un peu hautaine peut-être. C'était une véritable princesse. Sa figure exprimait une froide immobilité, une gravité contenue. Je ne la reconnaissais plus. Je ne reconnaissais plus son sourire, ses regards. Et pourtant elle ne me paraissait pas moins belle ainsi que sous sa première forme. Elle portait une robe de barège très légère, avec des raies d'un bleu pâle. Ses cheveux retombaient en longues boucles sur ses joues à la mode anglaise. Cette coiffure allait bien à la froideur de sa physionomie. Mon père était assis à table à côté d'elle et s'occupait de sa voisine avec cette politesse calme et recherchée qui lui était propre. Il la regardait de temps en temps, et elle le regardait aussi, mais avec une expression tout à fait étrange et presque hostile. Ils se parlaient en français. Je me souviens que la pureté avec laquelle Zinaïda prononçait cette langue me surprit. Pendant le dîner, la princesse ne se gêna pas plus que de coutume. Elle mangea beaucoup et fit l'éloge des plats. Ma mère en était visiblement fatiguée, et lui répondait avec une sorte de négligence pleine de mélancolie. Mon père fronçait parfois les sourcils d'une façon presque imperceptible. Zinaïda déplut aussi à ma mère. « Elle fait la fière, » dit-elle le lendemain. « Et comme cela lui va bien, avec sa mine de grisette. » « Il paraît que tu n'as jamais vu de grisette, » répondit mon père. « Oh non, Dieu merci. »« Oui, sans doute, Dieu merci. Mais alors comment peux-tu en parler ?» Zinaïda ne fit pas la moindre attention à moi. Bientôt après que l'on se fut levé de table, la princesse s'apprêta à partir. « Je compterai donc sur votre protection, Maria Nikolaïevna. Pieter Vassilievitch, » dit-elle d'une voix suppliante à ma mère et à mon père. « Que faire ? J'ai eu beau bon temps, mais il est passé. Je suis titré, » ajouta-t-elle avec un rire désagréable. « Mais le bel avantage, lorsqu'on n'a pas de quoi manger. » Mon père la salua très respectueusement et la reconduisit jusqu'à la porte de l'antichambre. Je me tenais là également, petite veste de nankin, les yeux baissés, comme un condamné à mort. La manière dont Zinaïda s'était comportée à mon égard m'avait anéanti. Quel ne fut pas mon étonnement lorsque, en passant devant moi, elle me jeta vivement, à demi-voix et avec le doux regard que je lui avais vu la veille, les paroles suivantes. « Venez chez nous à 8 heures, entendez-vous, sans faute. » Je levai les mains, mais elle s'éloignait déjà après avoir jeté sur sa tête son écharpe blanche. À 8 heures précises, j'entrai en redingote, cravaté avec soin, les cheveux relevés en houppe sur le devant de la tête, dans l'antichambre de la maison voisine. Le vieux domestique me regarda et se leva de son banc avec mauvaise grâce. Des voix joyeuses se faisaient entendre dans le salon. J'ouvris la porte et reculai de surprise. Au milieu de la chambre se trouvait la jeune princesse, debout sur une chaise et tenant devant elle un chapeau d'homme. Et autour de la chaise se pressaient 5 jeunes gens. Ceux-ci essayaient, à tour de rôle, de mettre la main dans le chapeau et le levait en l'air en l'agitant avec vivacité. M'ayant aperçu, elle s'écria « Attendez, attendez, un nouveau venu! Il faut lui donner aussi un billet !» Et sautant légèrement de la chaise, elle me prit par le parement de ma redingote. « Approchez donc, me dit-elle, pourquoi restez-vous là ?»« Messieurs, permettez-moi de vous présenter Monsieur de Valdemar, le fils de notre voisin. Et voici, ajouta-t-elle en me désignant successivement les jeunes gens, le comte Malevski, le docteur Louchin, le poète Maïdanov, le capitaine en retraite Irmatski et Mirov Sorlov, le hussard que vous avez déjà vu. Je vous prie de faire prompte et bonne connaissance. » J'étais tellement confus que je ne saluais personne. Je reconnus dans le docteur Louchin le noirot qui m'avait impitoyablement ridiculisé dans le jardin. Les autres m'étaient complètement étrangers. « Comte, dit Zinaïda, écrivez un billet pour M. Valdemar. » « C'est injuste, répondit le comte avec un léger accent polonais. C'était un jeune homme brun, très élégant et d'une figure agréable, aux yeux noirs et expressifs, au petit nez blanc et effilé, dont la bouche mignonne était surmontée d'une étroite moustache. C'est injuste, il n'a pas joué avec nous au gage touché. Ah oui, c'est injuste, répétèrent Bielovsorov et le monsieur qu'elle m'avait désigné comme un capitaine en retraite, homme d'une 40aine d'années, grêlé jusqu'à en paraître défiguré. Crépu comme un nègre, trapu, bancal et revêtu d'une redingote militaire sans épaulettes et déboutonnée. Écrivez un billet, on vous l'ordonne, répéta la petite princesse. Mais que signifie cette révolte? Monsieur de Voldemar se trouve avec nous pour la première fois, et pour aujourd'hui, il faut faire en sa faveur exception. Cessez vos murmures, allez, écrivez, je le veux. Le comte haussa les épaules, mais il inclina respectueusement la tête, prit une plume avec sa main blanche chargée de bagues, déchira un bout de papier et se mit à écrire. « Permettez-moi du moins d'expliquer à M. Valdemar ce dont il s'agit, » commença Louchin d'un ton moqueur, « car il est tout ahuri. Voyez-vous, jeune homme, nous jouons au gage touché. » La princesse doit un gage, et celui qui tirera l'heureux billet aura le droit de lui baiser la main. Avez-vous compris ce que je vous ai dit? Je me bornai à le regarder et continuai à rester là comme pétrifié. La jeune princesse sauta de nouveau sur sa chaise et se remit à agiter le chapeau. Tous les assistants l'entourèrent et je me joignis à eux. « Maïdanov, dit Zinaïda, un jeune homme élancé, à la figure maigre, aux petits yeux éteints, aux cheveux noirs et très longs. En votre qualité de poète, vous devez être généreux. Cédez donc votre billet à M. Voldemar, afin qu'il ait 2 chances pour une. » Mais Maïdanov, au lieu d'acquiescer à cette demande, fit un mouvement de tête négatif et secoua sa chevelure. Je plongeai ma main dans le chapeau, le dernier, pris un billet et l'ouvris. Ciel, que devins-je en lisant sur un bout de papier le mot « un baiser » ?« Un baiser » m'écriai-je involontairement. « Bravo ! Il a gagné !» répondit la jeune princesse. « Oh, comme je suis contente !» Elle descendit de sa chaise et me regarda dans le blanc des yeux d'une telle façon que j'en fus tout éperdu. « Et vous, êtes-vous content aussi ?» me demanda-t-elle. « Moi ?» balbutiai-je. « Oh, vendez-moi votre billet !» me cria tout à coup Belosorov. « Je vous l'achète 100 roubles !» Je répondis au hasard par un regard tellement indigné que Zinaïda battit des mains et Louchine s'écria « Quel gaillard ! Mais en ma qualité de maître de cérémonie, je suis tenu de veiller à l'observation de toutes les règles. Monsieur Valdemar, fléchissez un genou, c'est ainsi que nous l'avons institué. » Zinaïda se plaça devant moi, pencha un peu la tête de côté comme pour m'observer plus facilement, et me tendit majestueusement la main. Ma vue se troubla. Au lieu de me mettre sur un genou, je tombai sur les deux, et appliquai les lèvres si gauchement sur la main de Zinaïda que je m'égratignai le bout du nez avec un de ses ongles. « Bene !» s'écria Louchine, et il m'aida à me relever. La partie de gage continua. Zinaïda me plaça à côté d'elle. Quelle punition n'inventait-elle pas? Ayant été condamnée à faire la statue, elle choisit pour son piédestal le disgracieux Nirmatski. Elle le fit mettre à quatre pattes et l'obligea à replier sa tête sous sa poitrine. C'était des rires continuels. Ayant vécu jusqu'à ce jour dans l'isolement et la dépendance sous le toit paternel, toute cette gaieté bruyante, ce sans-gêne, ces relations nouvelles avec des inconnus, m'avaient porté à la tête. J'en étais littéralement enivré comme si j'avais bu du vin. Je me mis à rire et à bavarder plus haut que tous les autres, au point que la vieille princesse, qui était assise dans la chambre voisine, avec je ne sais quel employé de la porte d'Iverskoï, dont les lumières lui étaient nécessaires, sortit pour me voir. Mais je me sentais tellement heureux que je ne faisais pas le moindre cas des plaisanteries ni des regards louches qui m'étaient adressés. Zinaïda continuait à me traiter en préférée et me retenait près d'elle. Pendant l'une des punitions que nous infligea, je fus placé à ses côtés. On nous couvrit l'un et l'autre du même mouchoir de soie. Je devais lui confier mon secret. Je me souviens de l'instant où nos deux têtes se trouvèrent tout à coup dans une obscurité chaude, transparente et parfumée. Ses yeux brillaient doucement et tout près de moi. Le souffle qu'exhalaient ses lèvres à demi ouvertes était brûlant. J'entrevoyais ses dents blanches et les extrémités de ses cheveux me chatouillaient la joue. Je me taisais. Elle me souriait mystérieusement. « Eh bien !» me dit-elle enfin à voix basse. Mais moi, je rougissais, je riais, je me détournais, je ne pouvais presque plus respirer. Le jeu des gages touchés finit par nous ennuyer. Nous commençâmes à jouer au cordon. Grand Dieu, quel fut mon bonheur lorsque, m'ayant pris en défaut, elle m'appliqua une tape rigoureuse sur les doigts, et combien de fois je feignis avec intention d'être distrait, mais elle se fit un malin plaisir de ne plus me toucher. Que n'imaginâmes-nous pas encore ce soir-là? On joua du piano, on chanta, on dansa, et on figura un campement de bohémiens. Nirmatski fut déguisé à cet effet en ours, et on lui donna à boire de l'eau salée. Le comte Malevski nous montra différents tours de cartes et finit par se donner, en jouant au whist, tous les atouts. Louchine lui dit à ce propos qu'il avait l'honneur de l'en féliciter. Maïdanov déclama des fragments de son poème « L'assassin », oui, on était alors en plein romantisme, qui se proposait de publier avec une couverture noire et un titre en lettres rouges.
On vola à l'employé de la Pandiverskoï son chapeau qu'il tenait sur ses genoux, et il fut obligé, pour le ravoir, de danser le kazakh. On coiffa d'un bonnet de femme le vieux Bonifaci, et la jeune princesse mit un chapeau d'homme. Cela n'en finirait pas. Bielovsolov seul se tenait souvent à l'écart, l'air soucieux et irrité. Ses yeux s'injectaient parfois de sang. Il devenait tout rouge, et on eût dit qu'il allait se précipiter sur nous et nous éparpiller comme des brins de paille. Mais la jeune princesse le regardait, le menaçait du doigt, et il se renfonçait aussitôt dans son coin. La fatigue nous contraignit enfin de cesser. La vieille princesse, qui était fort endurante, comme elle le disait elle-même, et que le bruit ne laissait pas, finit pourtant par en avoir assez. Elle trouva aussi qu'il était temps de se reposer. À minuit, on servit un souper qui se composait d'un morceau de fromage desséché et de je ne sais quel pâté froid garni de jambon haché, que je trouvais préférable aux mets les plus succulents. Il n'y avait sur la table qu'une seule bouteille de vin et d'une forme étrange. Elle était noire avec un gros goulot. Le vin qu'elle contenait paraissait rose. Au reste, personne n'en but. Lassé de plaisir jusqu'à en être épuisé, je me disposais à partir. En me disant adieu, Zinaïda me serra fortement la main et sourit encore une fois d'une façon énigmatique. Le souffle humide et lourd de la nuit saisit brusquement ma figure échauffée. Un orage semblait se former. Des nuages noirs s'élevaient et s'avançaient avec lenteur. Leur forme confuse changeait à vue d'œil. Un vent léger frissonnait dans le feuillage sombre des arbres, et au loin, vers l'horizon, le tonnerre grondait sourdement et comme s'il se parlait à lui-même d'une voix irritée. Je gagnai ma chambre en passant par le vestibule de derrière. Je fus obligé d'enjamber par-dessus Fédor qui dormait sur le plancher. Il se réveilla, m'aperçut et me déclara que ma mère était de nouveau fâchée contre moi. Elle m'aurait envoyé chercher une seconde fois si mon père ne l'avait empêché. Il m'en coûtait de me coucher sans avoir dit adieu à ma mère et sans avoir reçu sa bénédiction, mais je n'y pouvais rien. Je dis à Fédor que j'allais me déshabiller, me coucher moi-même, et j'éteignis la lumière. Mais je ne me couchais pas. Je m'assis tout habillé sur une chaise et restai longtemps comme ensorcelé. Ce que je ressentais était si nouveau pour moi. Je me tenais immobile, osant à peine jeter les yeux alentour. Ma respiration était lente. Tantôt, je me reprenais à rire silencieusement en me rappelant cette soirée. Tantôt, je me sentais pris d'un frissonnement intérieur à l'idée que j'étais amoureux. « Le voilà donc enfin, cet amour, » me disais-je. L'image de Zinaïda se dressait doucement devant moi dans l'obscurité. Je voyais toujours sur ses lèvres son sourire énigmatique et ses yeux qui me regardaient un peu de côté. Il semblait m'interroger avec une expression pensive et tendre, comme au moment où je l'avais quitté. Enfin, je me levai. J'approchai de mon lit sur la pointe des pieds et posai ma tête avec précaution sur l'oreiller, comme si j'eusse craint de déranger, par un mouvement trop brusque, les souvenirs dont j'étais rempli. Je finis par me coucher, mais je ne fermais pas les yeux. Je remarquai bientôt que des lueurs pâles éclairaient par moments ma chambre. Je me mis sur mon séant et regardai par la fenêtre dont le châssis se détachait sur les vitres blanchissantes. C'est un orage, pensais-je. Et effectivement, c'en était un.
mais ils passaient au loin, de sorte que l'on n'entendait même pas le bruit du tonnerre, seulement des éclairs peu distincts, allongés et rapides, brillaient par intervalles sur l'horizon. Ils brillaient moins qu'ils ne tressaillaient convulsivement comme l'aile d'un oiseau mourant. Je me levais, je m'approchais de la fenêtre, et y restais jusqu'au jour. Les éclairs étaient incessants. Il faisait un temps de moineau, comme on dit vulgairement chez nous. Je regardais la plaine sablonneuse, la masse noire que formait le parc de Neltchoutnoï, les façades jaunissantes des bâtiments éloignés qui semblaient trembler à chaque éclair. Je regardais, ne pouvais m'arracher à ce spectacle. Ces éclairs muets, ces explosions contenues, me paraissaient répondre au mystérieux et muet transport qui éclatait aussi en moi. Le jour commença à poindre. L'aurore s'annonçait au ciel par quelques taches pourpres. À mesure que le soleil se levait, les éclairs étaient moins vifs et moins prolongés. Leurs tressaillements devenaient de plus en plus rares, et ils finirent par cesser entièrement, engloutis par la lumière franche et fortifiante du jour naissant. Et mes éclairs à moi cessèrent aussi. Je ressentais une grande fatigue et désirais le repos. Mais l'image de Zinaïda planait toujours sur mon cœur. Seulement, cette image paraissait plus calme, comme le cygne qui prend son vol et qui quitte les herbes des marécages. Elle s'était séparée des autres figures peu attrayantes qui l'entouraient, et en m'endormant, je lui adressai une dernière fois pour lui dire adieu les confiantes adorations de mon cœur. Ô sentiment naïf! Douce mélodie, bonté et apaisement d'un cœur touché, joie des premiers épanouissements de l'amour, où êtes-vous? Où êtes-vous?